merci Daniel. Je voudrais partager un texte que nous trouvons dans l'évangile de Luc, chapitre 22. La semaine dernière, on a parlé que Jésus annonçait sa mort. Il était toujours à Capernaum et il allait faire le voyage vers Jérusalem. Le passage que nous allons prendre ici, c'est juste la veille de sa mort. C'est peut-être un peu à l'avance par rapport à Pâques, qui est dans 15 jours, mais c'est assez intéressant. Luc 22, verset 14. Texte que nous connaissons très bien. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Jésus leur dit, « Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. » Jusque-là, la parole. Père éternel, nous voulons encore une fois faire silence autour de nous et ouvrir les oreilles de notre cœur pour entendre ton message, entendre ta parole, mais pas seulement l'écouter, mais la comprendre. Seigneur, que nous puissions vraiment entendre et comprendre ta voix au travers de ce texte. Amen. Si j'ai lu tout le passage, c'est pour le situer vraiment dans son contexte de notre partage, qui ne sera basé que sur les quatre derniers versets. Et si nous voulons recadrer la scène, par rapport en même temps l'occasion de la sainte scène, l'évangéliste Luc nous donne quelques détails qu'il ne faut pas négliger. J'en ai relevé quatre. Premier détail, l'heure étant venue. Nous savons que Dieu est hors du temps. Mais en ce qui concerne le ministère de Jésus sur terre, la parole de Dieu est claire. Au temps marqué, Christ est mort. Au temps marqué. Ou encore, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Le temps est marqué. Le récit que nous partageons est dans le temps. Au bon moment, Dieu est précis, l'heure étant venue. Deuxième détail, Jésus se met à table et les apôtres avec lui. Les acteurs sont 13. 13 à table. Il paraît que ça vient de là. Jésus et les disciples qu'il a désignés comme apôtres, ceux qu'il a appelés à participer à son ministère pendant 3 ans. Ils sont à table pour le repas de Pâques. Un repas de fête juive, repas de réjouissance, qui déclare la sortie et la libération du peuple d'Israël, la sortie d'Égypte, la libération de l'esclavage. Repas de joie. Troisièmement, l'heure est venue du dernier repas. Voilà ce que Jésus dit, « Je mange ma dernière Pâque avec vous avant de souffrir, et je partage la dernière coupe du fruit de la vigne » avec vous. Et quatrièmement, Jésus donne un mémorial. Partagez le pain et le fruit de la vigne entre vous en mémoire de moi. Jésus anticipe sa mort. Il n'est pas encore mort. Mais le pain qui représente son corps donné et la coupe, la nouvelle alliance, en son sang, son signe prophétique. Voilà quatre détails importants à savoir. Pour ceux, ce repas d'un Dieu est tout à fait là pour faire passer un peu la dureté de la séparation. Il ne faut faire pas ensemble. Mais Jésus, quand même, il sait ce qui va se passer. Et voilà, Jésus va jeter quand même une bombe qui va glacer l'ambiance, qui va glacer les cœurs des apôtres. L'un de vous me livrera. Il y a parmi vous les 12 que j'ai choisis, un traître. Un traître, et il est ici, à table, avec nous. Et voilà la discussion qui s'anime. C'est qui ? C'est moi. C'est moi, dira Judas. Sincèrement, l'ambiance, repas de Pâques, foutu. Même Jésus n'a même plus écouté. Au verset 22, voilà ce qu'il est écrit. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est déterminé. Jésus n'est pas entendu. On n'entend pas. On discute. Eh les gars, je pars, je m'en vais. Eh, regardez, je vais partir. Judas va me livrer. Je vais mourir. Bon, on discute. Qui c'est qui? C'est classique, hein, des repas de fête qui devraient être une fête non-stop quand arrive un événement qui tombe comme ça, qui plombe l'ambiance. On oublie ce pourquoi on est là. Et je me souviens, dans un mariage qui aurait dû être joyeux, parce que toujours joyeux un mariage, une personne est arrivée et a décidé de se venger d'une incompréhension. Elle est venue. Coucou, bonjour, au revoir. Désolé, mais j'ai un anniversaire, au revoir. À partir de ce moment-là, les parents n'ont plus suivi la fête. C'était foutu. Imaginez seulement un repas d'anniversaire où on annonce que votre meilleur ami vient d'avoir un accident grave, qu'il est dans le coma et que son processus vital est engagé. On ne regarde plus vraiment le gâteau d'anniversaire. L'ambiance est plombée. Mais dans notre récit, avec Jésus et les 12 apôtres, c'est pas le pire. C'est la dernière Pâque de Jésus, qui devrait être joyeuse quand même, mais pas vraiment. Joyeuse quand même parce que ça devrait être l'anniversaire de la libération de l'esclavage, mais aussi parce que Jésus est là. Imaginez manger avec Jésus, mais ça va être formidable. Tout le monde est réuni depuis 3 ans de vie commune, le ministère fructueux. Moment inestimable, moment unique. Dernier, avant le royaume des dieux. Mais ça, il n'a pas compris. Déjà entaché par la discussion de qui est le traître, le repas sera secoué d'une autre discussion. Qui est le plus grand ? Qui est le plus grand ? Qui est le traître et qui est le plus grand ? Deux questions comme si l'une répondait à l'autre. Qui est le traître, le pourri, le bon rien ? Et la question, qui est le plus grand, le meilleur, le super, le propre à tout ? Dans ces questions, Jésus est complètement oublié. Discussion entre les apôtres. Il est complètement mis de côté. Les apôtres ne voient que c'est moi, ma petite personne. Est-ce moi le traître ? Et si je ne suis pas, c'est peut-être moi le meilleur. Qui est le plus grand ? C'est vraiment le propre de l'homme, ça. D'enfant aussi, hein. Bon, tout englobé, hein. Mais d'abord, c'est moi et mon ego. C'est moi. J'imagine, de temps en temps, comme ça, la discussion entre les disciples. C'est moi, hein. Je suis le disciple que Jésus aimait. Donc c'est moi le meilleur, c'est moi le plus grand. Non, c'est moi, j'étais au bureau de péage. C'est moi le plus intelligent. Non, c'est moi, parce que Jésus est venu guérir ma belle-mère. Mais non, c'est moi, j'étais l'un des 3 qui a vu Jésus transfiguré. Mais non, c'est moi, parce qu'il m'a confié les clés du royaume. Non, c'est moi, parce que Jésus m'a choisi le premier. Et blablabla, on imagine. Hein. Non, c'est moi. Mettez-vous juste un instant à la place du Seigneur, qu'auriez-vous pensé? C'est pas possible, ils n'ont rien compris. Pendant 3 ans, ils n'ont rien écouté. J'ai pas bien choisi. Peut-être que j'ai perdu mon temps avec eux. Arrêtez. Arrêtez, c'est ma mort que je vous annonce. L'heure est venue. Demain, je serai cloué sur la croix. Ils n'entendent pas. Ils n'ont pas écouté. À sa place, combien d'entre nous n'auraient pas piqué une colère? Jésus garde son calme et parle du temps présent. T'as vu cette phrase? Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Texte original, les rois des nations dominent sur elles et ceux ayant autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs. Qu'est-ce que ça vient faire là? On dirait un proverbe de notre temps ou un titre de journal tiré maintenant. Notre gouvernement nous taxe, mais c'est pour notre bien et pour... Et nous sommes fiers de notre drapeau. On est royalistes. Notre pays a la plus grande puissance nucléaire et notre jeune dirigeant est le plus grand. Nous devons l'honorer. C'est la guerre dans nos territoires, mais le président fait tout ce qu'il peut pour la paix. C'est notre chef, on doit l'honorer. Nous n'avons rien à dire dans notre pays, mais nous sommes tous égaux, gloire à notre dictateur, etc. C'est un peu cette phrase que Jésus dit. Combien de personnes arrivées au pouvoir ont écrasé des populations dans le but de leur seule gloire? On ne citera pas d'exemple, on a un beau pour l'instant. Hein. Combien de dirigeants ont mis des poings énormes sur des hommes pour grignoter des terres? Combien de simples caporaux sont devenus généraux en tuant des innocents? Et combien on a adulé et adoré de telles personnes soi-disant libérateurs ou révolutionnaires qui annonçaient le meilleur avenir? Jésus renvoie les apôtres à son entourage. Regardez autour de vous. Les Romains vous oppriment et le peuple crie gloire à César. On adore. Les Romains sont là, ils nous écrasent, mais gloire à César. C'est le syndrome de Stockholm. J'ai entendu parler du syndrome de Stockholm. Définition, le syndrome de Stockholm est un phénomène psychologique observé chez des otages ayant vécu durant une période prolongée avec leur geôlier et qui ont développé une sorte d'empathie, de contagion émotionnelle vis-à-vis de ceux-ci. Voilà, ils se sont fait copains, quoi. Il y en a qui sont tombés amoureux, etc., etc. Autrement dit, vous êtes en otage et votre agresseur devient votre idole, devient votre copain, votre super. Libéré de l'esclavage d'Égypte, le peuple d'Israël va un peu faire la même chose, hein. Le pharaon est un bienfaiteur, il nous donnait à manger, dirent-ils à Moïse. Et tu nous as amenés dans le désert et on va mourir de soif et de faim. Ah, le pharaon, on va manger chez lui. Un peu la même chose, c'est ce que Jésus dit. Rien de nouveau sous le soleil. Combien d'âmes sont sous le joug de sectes en louant leur leader? Combien d'hommes et de femmes au nom de Dieu, écrase les autres, tout en ayant tous les honneurs. Regardez autour de vous, dit Jésus. Regardez autour de vous, mais ne leur ressemblez pas. Soyez différents. Ne soyez pas comme les pharisiens qui aiment prier debout pour être vus. Ne vous conformez pas au siècle présent, dira Paul, mais soyez renouvelés. Être différents. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. L'homme ou la femme n'aime pas être abaissé. Le but de la vie, c'est de monter dans l'échelle sociale. C'est moi le meilleur, c'est moi le plus riche. Dans le groupe des apôtres, la question n'est pas qui va servir, mais qui sera au-dessus de tous, qui se distingue comme leader. Qui est le plus grand? Jésus rappelle la notion du service. Servir, c'est être au service des autres. Jusque-là, c'est logique. Servir, c'est être à la merci de l'autre. Servir, c'est souvent travailler quand les autres ne font rien. Servir, c'est parfois être considéré comme moins que rien. Servir, c'est considérer les autres comme au-dessus de nous-mêmes. Servir, c'est offrir. Offrir, c'est service. Donner. Se donner. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Voilà enfin la réponse de Jésus. Le plus grand est celui qui est à table. Comme ils sont tous à table. Ils sont tous égaux. Ils sont tous grands. Jésus, s'il te plaît, je ne te suis pas. Être à table avec toi, c'est être grand. Ou être petit. Ou serviteur. Tu dis que celui qui veut être le plus grand soit le plus petit et que celui qui gouverne soit le serviteur. Je ne m'y retrouve pas vraiment. Petit, grand, à table ou pas, servir ou pas. Montre-nous un exemple. Montre-nous un exemple, s'il te plaît, Jésus. Alors Jésus dit simplement moi. Moi, cependant, je suis au milieu de vous, comme celui qui sert. Dans l'évangile de Matthieu, la mère des fils de Zébédée avait déjà fait cette demande à Jésus dans Matthieu 20-21. « Ordonne que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Bien, c'est moi. Ou c'est vous, moi je me mets à côté de Jésus. Et la réponse de Jésus, verset 26, « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus est venu comme serviteur, serviteur souffrant. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Comment mettre en pratique ce chant qu'on aime chanter, qu'un superbe chant. Je veux te ressembler. Je veux faire des miracles. Je veux libérer ma famille de l'oppression de Satan. Je veux prêcher ton évangile au monde entier. Je veux faire grandir ton église. Je veux, Seigneur. Ok. Ok. D'accord. Commence à être le serviteur de tous. Celui qui ira détacher l'âne. Celui qui distribuera les pains aux 5000 personnes. Celui qui restera le dernier pour balayer la salle après une réunion. Celui qui, après un camp de jeûne, nettoie les toilettes, côté éclaboussé. Soyez le serviteur de tous. Mais Seigneur, tu exagères quand même. C'est toujours les mêmes qui restent en dernier. Et Jésus répond, je sais. Je sais. Et encore, tu n'as pas encore été crucifié et abandonné de tous tes amis qui était prêt à t'accompagner jusqu'à la mort. Je sais. Seigneur, Seigneur, comment fais-tu ? Comment fais-tu avec moi ? Et Jésus te répond, je t'aime. Je t'aime. Seigneur, tu m'aimes ? Oui, je t'aime. Et je vais te le montrer. Je vais te montrer jusqu'à quel point je t'aime. Oui, j'irai jusque la mort. Et je voudrais terminer par cette lecture où Jésus fait quelque chose d'exceptionnel. Dans Jean 13, je vous invite à le prendre, Jean 13, verset 1, nous sommes dans le même cadre de ce repas. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens, qui était dans le monde. Jusque-là, il aime. Et la phrase qui suit, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas, Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge, dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont ils étaient sales. Verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je fais ? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Il ne faut pas seulement écouter, il ne faut pas seulement entendre, pourvu que vous les pratiquiez. Te ressembler, Jésus. Si vous savez ces choses, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Que nous puissions être des serviteurs exemplaires de Jésus. Même si, comme Paul dit, nous devons être traités comme les balayures du monde. Amen. Seigneur, tu nous as montré un exemple qui peut-être nous bouscule. Devons-nous nous laver les pieds les uns les autres? Mais nous devons être serviteurs les uns des autres. Toujours considérer l'autre au-dessus de moi. Oh Seigneur, que nous puissions avoir cette optique que toi, tu t'es abaissé pour que nous ayons la vie. Seigneur, merci. Merci d'être venu en serviteur souffrant. Je veux te suivre, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Et je vous invite à chanter tout simplement ce chant pour ressembler à Jésus.